Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, ce mois d'août marque le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, appelée aussi la Grande Guerre. Au-delà de ses combats acharnés et de ses millions de morts, son impact sur le monde de l'époque a été considérable et n'a pas épargné le Moyen-Orient. C'est pourquoi Orient Hebdo a choisi de revenir sur quatre épisodes de cette guerre qui se sont déroulés dans la région ou sa proche périphérie et qui ont eu sans conteste d'importantes répercussions. Deuxième volet ce samedi, la campagne d'Égypte et la révolte arabe, récit assuré comme la semaine dernière, par l'historien Jean-Yves Le Naour. Autre série avec Alexandre Bouchanti cette fois et son troisième volet consacré aux communautés étrangères d'Égypte, aujourd'hui la communauté arménienne. Enfin, Michel Paul à Jérusalem nous parlera météo, pluviométrie et système hydraulique car le problème de l'eau est central dans la région.
Orient Hebdo sur RFI.
Pour l'essentiel, la guerre de 14-18 s'est déroulée en Europe, mais elle a largement débordé sur sa partie sud et sud-est. C'est ce que l'on a appelé le front du Moyen-Orient. Un front plutôt large, puisqu'il va de l'Afrique du Nord à la Perse, en passant par le Caucase. Un front qui recouvre à peu près l'influence, sinon le territoire de l'Empire ottoman, qui est entré en guerre tardivement aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. De nombreuses campagnes militaires se sont déroulées dans cette région entre 1915 et 1918. Nous en avons distingué trois. La campagne d'Égypte en 1915 avec la reprise du Sinaï en 1916, la campagne de Palestine à partir de 1917, la campagne de Mésopotamie. C'est à la première que nous nous intéressons aujourd'hui. Jean-Yves Le Naour, bonjour.
Bonjour.
Historien, spécialiste de la Grande Guerre. Tout commence donc en 1915, quand l'Empire ottoman tente de s'emparer du canal de Suez, qui est contrôlé par les Britanniques, hein, en Égypte.
Oui, l'Empire ottoman a un grand rêve. Quand il entre en guerre, en novembre 1914, il a un grand rêve, c'est finalement se reconstituer. Vous savez que l'Empire ottoman, c'est l'homme malade de l'Europe au XIXe siècle, qui ne cesse de reculer, qui ne cesse d'être dépouillé de ses territoires européens, mais aussi africains, caucasiens. Et voilà qu'avec la guerre, il se dit, c'est le moment de reprendre le Caucase, aux Russes, mais pas seulement. Si les Russes sont défaits, toute l'Asie centrale, jusqu'aux confins de la Sibérie, tout le Turkestan, hein, en réalité, et tous ces peuples musulmans que nous allons rassembler. Et puis, reprendre le canal de Suez, reprendre l'Égypte à l'Angleterre, opérer le lien avec les tribus de Cyrénaïque et de Tripolitaine de l'actuelle Libye qui sont en état d'insurrection permanente depuis la colonisation italienne en 1911. C'était un territoire d'ailleurs sous suzeraineté ottomane, hein, et qui a été conquis par l'Italie en 1911. Et puis plus loin, également peut-être reprendre l'Afrique du Nord aux Français si effectivement l'Allemagne a gagné la guerre. Donc il y a un rêve énorme, un rêve qui est fou, se reconstruire, se rebâtir pour l'Empire ottoman. Le problème, ben, c'est qu'il faut battre les Russes, il faut battre les Anglais.
Alors, qui sont les belligérants de cette campagne d'Égypte ? Alors, aux côtés de l'Empire ottoman, est-ce que les Allemands sont avec eux, sous forme peut-être d'aide militaire ?
Alors oui, les Allemands, d'abord, ils apportent l'aide matérielle, ils apportent les canons, ils apportent les munitions. C'est eux qui équipent l'armée turque. Mais il y a aussi, dans cette armée ottomane qui est commandée par Jamel Pasha, il y a un chef d'état-major allemand. Quand on dit chef d'état-major, en réalité, c'est lui qui commande. Voilà. Officiellement, l'armée est commandée par Jamel Pasha, mais Jamel Pasha est un politique. Donc, en réalité, derrière, c'est un Allemand qui s'appelle von Kressenstein.
Alors, ces troupes ottomanes, aidées par les Allemands, font face aux Anglais et aussi, sans doute, les Français, avec peut-être aussi les Italiens en Tripolitaine et en Cyrénaïque.
Bon, vous savez, les Italiens, ils ont déjà énormément de mal à contrôler les villes du littoral. On peut dire que l'ensemble de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine est en état d'insurrection. Ils ne maîtrisent absolument plus rien. C'est au cours d'ailleurs de l'année 1915, quand ces tribus en insurrection armées par les Allemands, financées par les Allemands, vont marcher sur le Caire, marcher sur l'Égypte, que les Anglais vont les écraser très facilement, parce que ce n'était pas la guerre moderne, si vous voulez. Ces tribus étaient habituées à la razzia, si vous voulez, c'est la guerre ancestrale, alors que les Anglais, ils ont des avions, et dans le désert, c'est très utile pour repérer le mouvement des troupes. Ils ont des canons, des mitrailleuses, et l'effet de surprise l'entreprise ne peut absolument plus marcher quand vous avez des avions. Donc, on peut dire qu'à la fin de 1915, la révolte de la Tripolitaine et la Cyrénaïque, de l'actuelle Libye, eh bien tout ça, ça n'existe plus. Ils ont été pris en tenaille, en gros, par les Français en Tunisie et par les Anglais à l'ouest de l'Égypte. Et là, cette rébellion sur ce côté-là, on n'en parle plus.
En revanche, sur l'autre côté, côté canal de Suez et côté Sinaï, cette rébellion continue ?
Oui. Alors, c'est pas une rébellion, c'est l'armée turque qui marche. Mais cette
avec
armée
les turque, populations locales.
Oui, c'est vrai, avec les tribus du Sinaï aussi. Mais cette armée turque, composée de 50 000 hommes, a un gros problème. C'est que pour reprendre le canal de Suez, eh bien, il faut traverser le désert du Sinaï. Et là, vous avez que très peu de points d'eau. Vous ne pouvez pas lancer à travers le désert une armée de 200 000 hommes. C'est absolument impossible parce que vous ne pouvez pas les abreuver. Alors, vous pouvez pas dépasser les 50 000 hommes. Vous ne pouvez pas dépasser les 15 000 chameaux et il n'y a que deux routes. Donc, pour les avions anglais ou français, parce que c'est un avion français, un hydravion, qui va repérer cette armée en marche, eh bien, c'est très facile, évidemment, quand vous êtes en plein milieu du désert et que vous savez qu'il n'y a que deux routes, c'est très facile de repérer l'ennemi qui vient vers vous. Et c'est un avion français, un hydravion français, qui, le 31 janvier, va repérer à 10 km du canal de Suez l'armée ottomane qui est en marche. Donc, l'effet de surprise, il n'existe pas. Quand les Ottomans vont attaquer, dans la nuit du 2 au 3 février, le canal de Suez, qui vont tenter de traverser, certaines unités vont d'ailleurs réussir à traverser, sont entièrement décimées ou faites prisonnières, eh bien c'est la défaite, il n'y a pas d'effet de surprise, c'est la défaite, sont accueillis par un feu nourri, autant des navires qui sont venus pour tirer avec leurs canons que de l'armée britannique. Quand on dit l'armée britannique au sens large, hein, parce qu'il y a aussi là beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais, eh bien c'est la défaite pour Jamal Pacha et ses troupes, et le 3 février, ils doivent se replier à travers le désert du Sinaï.
Alors, est-ce que l'Égypte devient une base arrière pour l'armée britannique dans cette région ?
Alors l'Égypte, c'est une base arrière, c'est parce que c'est un point absolument essentiel pour les Britanniques. Le canal de Suez, c'est une artère fondamentale. La prise du canal de Suez aura été un coup de massue sur le plan moral donné à Londres, et puis aura été une des ruptures de leur route commerciale. Donc c'était vraiment un objectif stratégique. Et c'est pour ça que les Britanniques conservent des forces importantes à Suez et en Égypte. Alors que les Français, par exemple, à la fin de 1915, quand ils voient que les Dardanelles, ça ne marche plus, l'expédition des Dardanelles en 1915, il souhaiterait une armée d'Orient, il va y avoir une armée d'Orient qui va se mettre en place, qui va débarquer à Salonique, en Grèce, et puis qui cherche à marcher vers la Serbie, vers la Macédoine, pour lutter contre la Bulgarie, pour lutter contre l'Autriche. Ils vont demander l'aide des Britanniques, et les Britanniques vont venir pour ne pas laisser les Français tout seuls, mais en traînant des pieds, parce que eux, ils veulent maintenir le plus d'hommes possible en Égypte. Ils ont tellement peur d'une offensive ottomane sur l'Égypte. Ils ont réussi en février à battre les Ottomans, mais en 1916, mais plus tard, et dans quelques mois. On sait qu'au temps chaud, il n'y aura pas d'offensive, parce que traverser le Sinaï, le désert, pendant l'été, c'est une épreuve. Mais en 1916...
En 1916, justement, l'Empire ottoman tente de reprendre à nouveau le Sinaï.
Alors, effectivement,
et ça ne marche pas.
Mais ça ne marche pas, parce que là, cette fois-ci, les Britanniques se sont dit, il ne faut pas attendre le coup. Comme en 1915, on a attendu que les Turcs attaquent pour les repousser. Mais c'est dangereux. En 1916, les Turcs ont tenté le coup également, mais les Britanniques ont essayé de le parer en se disant, il faut non pas se battre sur le canal de Suez, mais dans le Sinaï, et peut-être le plus loin possible. Et donc, essayer de repousser en quelque sorte le front, conquérir le Sinaï. Et alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont marcher à travers le désert, et afin de ne pas être prisonniers des sources, des points d'eau, des oasis qui sont très limités, eh bien, construire un chemin de fer en même temps qu'ils marchent. Ils construisent un chemin de fer, et donc, ils sont toujours ravitaillés par voie de chemin de fer, alors que l'ennemi, lui, il doit parcourir par chameaux, par chevaux, des centaines de kilomètres sous un soleil de plomb avec très peu d'eau et donc très peu de troupes. Alors que grâce au chemin de fer, les Anglais peuvent avoir beaucoup de troupes et beaucoup de ravitaillement.
Alors, ils battent pour une deuxième fois l'Empire ottoman et là, ils en profitent pour fomenter des troupes dans toute cette région pour essayer de grappiller, si je puis dire, d'attraper ce qu'ils pouvaient de cet empire quasiment dépecé.
Alors c'est juin 1916, c'est la révolte arabe. La révolte arabe avec le shérif de la Mecque, Hussein, qui appelle au djihad contre les Turcs. Et là c'est assez formidable parce que le sultan ottoman, qui avait le titre de calife de l'islam, avait appelé au djihad contre les chrétiens. Alors contre les chrétiens, contre les anglais, les français, les russes, mais pas contre les allemands. Hein. D'ailleurs il y avait des rumeurs comme quoi Guillaume II s'était converti à l'islam, hein, histoire de dire nous sommes alliés à Guillaume II, qui est un bon croyant, etc. Et là, on va renverser le djihad contre les Ottomans. Simplement, les Ottomans croyaient que le djihad allait voir la solidarité des peuples musulmans contre les chrétiens, en fait, contre les puissances coloniales. Mais ce qui s'est passé, c'est en fait l'inverse. Le loyalisme, c'est l'inverse. Ce sont des populations arabes de l'Empire Ottoman qui se soulèvent contre les Ottomans pour retrouver leur indépendance. Parce que les Anglais, notamment, leur ont promis avec force... cadeaux, argent, armes, etc. Il a fallu les acheter aussi. Hein. Ils leur ont promis l'indépendance. Un grand royaume arabe, une fois que l'Empire ottoman aura disparu, il y aura un grand royaume arabe, ce sera la péninsule arabique, mais aussi qui comprendra également la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie.
Est-ce que c'est à ce moment-là que se dessine le Moyen-Orient d'aujourd'hui ?
Et oui, oui, parce que pendant qu'on promet aux Arabes un grand royaume s'ils se soulèvent contre les Turcs, même si c'est un apport militaire assez limité, hein, somme toute, mais pendant qu'on leur promet cela, eh bien, les Français et les Anglais sont en train de se partager la région. Ce sont les fameux accords Sykes-Picot, où vous avez d'un côté les Français qui disent « Nous, on veut la Syrie et le Liban », et puis de l'autre côté, les Britanniques qui disent « Ben nous, on veut relier la Méditerranée jusqu'au Golfe Persique, afin de rejoindre nos possessions indienne, et donc on se partage la région. Alors, on promet donc aux Arabes un territoire que l'on sait déjà partagé. Et en 1917, Lord Balfour va en plus promettre un foyer national juif en Palestine. Donc, vous avez une terre qui est trois fois partagée, trois fois promise, j'ai envie de dire, et bien fatalement, il y aura des déçus.
Merci Jean-Yves Le Naour, historien spécialiste de la guerre de 14-18.
Merci à vous.
Troisième volet de notre série sur les communautés étrangères d'Égypte. Aujourd'hui, les Arméniens, ils constituent une des communautés les plus intégrées d'Égypte, même si leur présence ne remonte qu'à peine près d'un millier d'années, Alexandre.
Oui, tout à fait. C'est avec la dynastie des Fatimides qui a régné sur l'Égypte et sur une bonne partie du monde musulman que les Arméniens sont arrivés en Égypte. Alors, ils viennent du nord-est de l'actuelle Turquie et ils font partie de ces Eurasiens qui composaient une sorte de force mercenaire, celle des Mamelouks. Et en fait, c'était des chrétiens qui étaient enlevés et convertis à l'islam dès leur enfance pour être élevés au métier des armes. Alors certains les estiment à l'époque à 40 000. Alors très vite, ils sont montés en grade. Il y a eu notamment Bahaeddin Karakouch qui a construit la grande citadelle du Caire, mais qui a aussi supervisé sur le tracé de la nouvelle capitale. Et puis, il y a Mohammad Kahi al-Armani qui a été nommé grand représentant par les notables du Caire pour négocier avec Bonaparte, qui avait occupé le Caire en 1798 dans le cadre de l'expédition d'Égypte, et Napoléon l'avait trouvé tellement intelligent qu'il l'avait nommé chef de l'administration du Caire.
Mais ces Arméniens se sont tellement fondus dans la société égyptienne, Alexandre, qu'ils ne constituent plus une communauté étrangère, à proprement dit. La communauté arménienne d'aujourd'hui est essentiellement due à une nouvelle vague d'immigrants.
Oui, tout à fait, mais avant cette vague proprement dite, il y a eu les Arméniens qui ont immigré vers l'Égypte, tout simplement pour faire fortune. Alors, ils ont des atouts, ils parlent turc, arménien et très vite arabe, et deviennent fonctionnaires de l'État égyptien de Mehmet Ali. Et par exemple, disant que Moubar Pacha est devenu le premier ministre égyptien. Un poste qu'il va occuper sous les khédives Ismaïl, Taoufik et Abbas Helmi. Mais la première grande vague d'émigration arménienne est celle de ceux qui fuient les premières persécutions ottomanes de 1894 à 1896. Et puis, la population arménienne double avec cette vague pour atteindre 8000 personnes. Et puis, il y a la vague de 1915 avec les massacres des Arméniens en Turquie. Et à cette époque, en Égypte, la population arménienne frise les 30 000 personnes qui sont principalement concentrées au Caire et dans la nouvelle cité d'Héliopolis, au nord-est de la capitale.
Alexandre, où en est la communauté arménienne aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, elle est tombée à près de 6000 personnes. La plupart des Arméniens ont émigré à cause des nationalisations de Nasser, des nationalisations qui ont mis à genoux le monde des affaires, où les Arméniens étaient très actifs. Ceux qui restent sont aujourd'hui de petits industriels, des bijoutiers ou des horlogers. Donc, fini l'époque du grand photographe Vartan et de tous ces Arméniens techniciens de la grande industrie égyptienne du cinéma. Mais la diaspora arménienne à l'étranger reste toujours liée à l'Égypte, une Égypte qu'elle considère toujours comme étant la mère patrie.
Les Arméniens, troisième volet de notre série sur les communautés étrangères d'Égypte. Merci Alexandre Boutchanti.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr. Orient Hebdo sur RFI.
Et nous allons maintenant à Jérusalem où nous attend Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour.
Cette semaine, Michel, nous parlons du climat, de la pluviosité et des ressources hydrauliques.
Eric, le travail de météorologiste sur les chaînes de télévision en Israël relève de la sinécure, du moins pendant près de 6 mois par an. Il fait chaud et le temps est sec. Pas de pluie pendant la saison chaude. En fait, il y a de moins en moins de pluie, même pendant la période humide, l'hiver. Et c'est donc toute l'approche israélienne en matière d'approvisionnement hydraulique qui est à revoir. Le système reposait au cours du demi-siècle dernier sur des réservoirs et des barrages de rétention pour stocker les eaux de pluie en hiver et les utiliser en été. Le problème, c'est que la baisse de la pluviosité des dernières années ne permet plus de remplir les réservoirs.
De l'eau en Galilée, mais dans la partie sud du pays, aucune ressource, Michel.
Le lac de Tibériade, ou mer de Galilée, est le pluviomètre du pays. Régulièrement, pendant les périodes de pluie, on annonce dans les médias combien de millimètres se sont ajoutés à son niveau. Curieusement, tout comme la mer morte, le lac de Tibériade se situe en dessous du niveau de la mer, moins 212 mètres très précisément. Et à l'heure actuelle, le niveau du lac se trouve à 2 mètres en dessous de la ligne rouge. Déficit hydraulique particulièrement grave lorsque l'on sait que le Movil Arzi, la conduite d'eau nationale, permet aux localités du sud d'Israël, notamment Beersheva et le désert du Negev, d'utiliser les eaux du lac. C'est la seule source d'alimentation en eau, en fait, pour toute cette région.
L'eau au Proche-Orient, Michel, c'est avant tout un sujet stratégique.
Le premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin, expliquait en 1992 « Si nous réglons tous les problèmes du Proche-Orient, mais pas celui du partage de l'eau, notre région explosera. La paix ne sera pas possible. » Effectivement, Eric, le problème de l'eau est au centre du conflit. En 1967, tout juste 2 mois avant la guerre des Six Jours, Israël a bombardé en Syrie le chantier d'un vaste projet de détournement des eaux du Jourdain. Conflit réglé à l'amiable avec le Liban à propos d'une autre rivière, le Khatsbani. Il existe des dissensions aussi entre Israël et l'autorité palestinienne pour ce qui est de l'utilisation des ressources en eau en Cisjordanie. Et le traité entre Israël et la Jordanie, le traité de paix, est centré autour d'une question du partage des eaux du Jourdain.
Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui, Michel ?
Eh bien, l'élément nouveau qui change la donne, le dessalement de l'eau de mer et aussi le recyclage d'eau épurée. Israël traite chaque année 170 millions de mètres cubes d'eau usée d'origine ménagère. Les eaux des stations d'épuration ne sont pas potables pour le consommateur. Elles sont utilisées exclusivement dans l'irrigation des terres agricoles ou encore pour des opérations de nettoyage des voiries. Mais surtout, la construction de deux usines de dessalement à Hadera dans le nord et à Ashkelon dans le sud. Dans l'espace de 2 ans, elles devraient suffire à tous les besoins du pays en milieu urbain et à plus long terme, s'attaquer aux demandes des agriculteurs. Optimistes, les Israéliens pensent régler de cette façon, une fois pour toutes, la question de l'eau, du moins en ce qui concerne leur pays.
Merci Michel. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr à la rubrique émission ainsi que sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous évoquerons les campagnes de Palestine et de Mésopotamie pendant la guerre de 14. En attendant, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI.